La chronique dans ce temps-là, avec Philippe Basque, une invitation du Village historique acadien.
Bonjour Philippe.
Bonjour Claude.
Bonjour Philippe.
Allô Sandra.
On a plusieurs sujets à proposer, mais tout d'abord, on va parler de l'industrie du bois, c'est ça?
Oui, c'est un des sujets qu'on peut parler ce matin. C'est ça, j'ai quelques sujets, fait que... Il faudrait peut-être m'interrompre là, à tous les cinq minutes là, pour pas que je bosse le temps, là, parce que je sais pas, des fois je commence à parler, puis là j'arrête plus.
OK, alors on va ça, parler de bois, on devrait parler de la paroisse de Saint-Isidore et du castor. Ouais.
Si on a le temps.
Ça, donc, c'est ça. Ben, on va prioriser le castor puis le bois, tu sais.
OK.
Puis c'est que la semaine prochaine, Clarence Le Breton fait une conférence sur ce sujet-là, qui est c'est le 1er avril à 7h au Centre culturel à Caraquette. Et puis c'est un sujet qui n'a pas été touché souvent par les historiens de la péninsule, même du nord-est. Là. Mm-hmm. C'est une industrie qu'on a touchée dans certains ouvrages, là, l'industrie du bois, l'industrie forestière, surtout fin des années 1700, début 1800, on coupait des arbres pour faire des mâts de bateaux, puis la construction navale. Il y a plusieurs différentes industries qu'on peut avoir dans la forêt au Nouveau-Brunswick. Et puis, dans les années 1900, une industrie qu'on n'a pas encore publiée, je pense, d'articles vraiment détaillés ou de livres, comme Clarence a publié sur le collège de Caraquette, puis le Caraquette Flyer. Mais dans les années 30, je pense, ça a vraiment parti ça, cette industrie-là. C'est le bois de pulpe, là, qui est le bois de pulp, qu'on disait, le pulp wood, qu'on va exporter sur différents marchés. On va en faire des moulins à pâte et papier. Toute cette industrie-là prend l'envol vraiment dans les années 1900. Et puis, on va exporter beaucoup de ces forêts-là, de ces arbres-là, de ce bois-là, à partir du quai de Caraquette. Fait, pendant des années de temps, on va recevoir le quai de Caraquette, le port de mer, va recevoir beaucoup de navires, des dizaines de navires qui vont venir chercher du bois de pulpe, là, qui est ce bois-là. Fait qu'on a beaucoup de belles photos qui vont être présentées durant la présentation. Mm-hmm. Fait que pendant plusieurs années, on exporte le bois de ce bois-là à partir du port de Caraquette. Et puis le bois vient d'un petit peu partout, en lien justement avec la paroisse Saint-Isidore, Paquetteville, dans ces régions-là. J'ai souvent été voir des gens, moi, qui achetaient des camions, puis qui allaient dans la forêt, puis coupaient justement du bois de pulpe, là. Et puis ça commençait vraiment dans la forêt là-bas loin, là, parce que la forêt, elle est pas sur le bord de la mer à Caraquette, il faut vraiment y aller plus loin. J'ai rencontré des gens de Oshaila aussi, qui me racontaient qu'ils étaient impliqués dans cette industrie-là. Fait que c'était vraiment une industrie forestière pendant plusieurs années qui a fait travailler beaucoup de gens dans le nord du Nouveau-Brunswick. Là. Ouais. Fait qu'on allait dans la forêt couper les arbres. Et puis, on s'achetait au début, on allait des fois avec des chevaux. Mm-hmm. Avec le temps, on va s'acheter des camions. Là. Puis souvent, avec le camion, ben là, après ça, on va acheter d'autres plus grands camions. Puis là, on va amener le bois, dans le fond, sur le bord de la route, là, sur le bord, comme on disait. Puis après ça, de là, on va conduire avec les camions les billots de bois, là. Puis là, de là, on va mettre ça dans les yards. On appelle ça des yards. Hein. C'est beaucoup des termes anglais. Hein,
ouais,
là,
des cours, oui.
Les cours à bois, ouais, c'est des yards à bois. Puis chacun avait sa yard à bois ou sa cour à bois à Caraquette. Fait lorsqu'on se promenait sur l'entour du quai, là, jusqu'à le Home Hardware aujourd'hui dans cette région-là de Caraquette, là, jusqu'à pas le centre culturel, mais le Carrefour de la mer,
de la mer,
ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans ce temps-là, mais toute cette grande région-là, c'est de là qu'on envoyait le bois. Là. Alors, on commençait dans la forêt, couper le bois. Des fois, il fallait le plumer à ce bois-là, il fallait plumer ça, le plumer du pulp. Là. Mm-hmm. Puis ça, beaucoup de gens âgés, moi, que j'ai rencontrés dans mes entrevues, m'ont raconté que c'était d'ouvrage. Là. Puis ils installaient je me souviens plus comment ils appelaient ce rack-là, mais c'était un. Il posait le bio, je pense que c'était du 4 pieds ou du 8 pieds. Puis, je pense que c'est 4 pieds, il me semble. Et puis, il installait ça là-dessus. Puis, il plumait un bord le bois de pulpe avec une plane ou un couteau à deux manches. Mm-hmm. Après ça, il pouvait tourner la bio sous cette machine-là. Puis là, il le tournait de bord. Puis là, il plumait l'autre bord. Là. Ça, c'était le gros ouvrage là, qu'il fallait faire, plumer du bois de pulpe. C'était quelque chose de pas difficile, mais c'était quelque chose de dur. Tu sais, il fallait tout le temps faire ça. Là. Et puis, le petit couteau à deux manches, là, c'est le couteau typique de l'époque, là, nous autres, on l'utilise au village acadien pour faire toutes sortes de travaux, entre autres, faire le bardeau, par exemple. Quand on vient à finir un des côtés vraiment beaux du bardeau, là, mm-hmm. C'est un petit couteau à deux manches qu'on utilise.
Alors, on faisait ça manuellement, là, c'est ça que vous nous dites?
Oui, c'était tout manuel. Ouais, c'était tout manuel. Il y en a qui loadaient aussi les blocs de 4 pieds manuellement dans le troc. Puis à la longue, ça va devenir pas manuel, là. C'est automatique, là, ou en tout cas, avec les chargeuses, là. Ouais. Ça, cette industrie-là va durer jusqu'à les années 80, là. Fait que, on avait, c'est quand même important, plusieurs centaines de milliers de cordes de bois peuvent être mises sur des bateaux. Dans les années 80 aussi, on va encore continuer d'avoir des bateaux qui vont venir. On va mentionner aussi certains accidents. Des fois, on loadait, tu sais, on mettait le bois sur des... pas des bateaux comme qu'il y avait dans les années 70, là, j'oublie le nom, là. Mais on mettait ça sur ces bateaux-là, puis des fois, on surchargeait, ou des fois, la sécurité n'était pas tip-top, là. Puis des fois, ça tombait tout sur le quai,
oh,
là, ça faisait des gros messes, puis là, il fallait tout ramasser ça. Fait que ça, c'est intéressant de voir toutes ces affaires-là. Et puis, c'est aussi intéressant de voir les gros bateaux qui venaient, qui étaient, il y a une histoire d'un gros bateau qui était trop gros pour venir
tourner
dans le port de mer de Caracas. Fait qu'ils ont été obligés de le virer de bord, là. Puis il y a d'autres bateaux qui vont échouer, qui vont essayer d'envoyer de nouveau. Fait que c'est intéressant de voir comment ça se passe, tout ça. Tous les différents métiers qu'il y avait tout le tour, hein, le pilote qui allait sur le bateau pour aider à piloter le gros navire pour se rendre sur le bord du quai. Après ça, tu avais le maître du havre qui s'occupait de différentes choses sur quand les bateaux des pays étrangers arrivaient. Tu avais un douanier qui arrivait parce que c'est des bateaux de pays étrangers. Aujourd'hui, il y en a moins ça. Il y a Belle Dune là, que des bateaux de pays étrangers. Mais auparavant, même dans les années 1800, les Chupagans, Lamec, Caraquet, Batters, ils avaient tous des bureaux de douane là, parce qu'il fallait dédouaner. Puis
il devait se passer d'autres choses. Je sais pas qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là, là, mais il y avait pas de drogue nécessairement, mais on essayait sûrement passer de l'alcool ou des choses comme ça.
On essaie de passer des cigarettes. Oui, t'as raison. Fait que de ça, on va en parler un petit peu. Il y a certaines marques, là, les cigarettes Camel, si je me rappelle bien. Il y a un chameau dessus. Là.
Oui,
les Camel, oui, j'ai déjà fumé ça, mais c'est fort. C'est comme.
Oui, c'est ça. Des fois, mais l'époque des Stim, là, l'époque de cette industrie-là, c'est après la prohibition. Fait que il n'y a pas tellement d'alcool là, comme l'époque de la prohibition, je veux dire. Là, peut-être qu'ils faisaient ça, là, mais l'époque d'alcool, nous autres, au Nouveau-Brunswick, c'est 1917 à 1927. Fait que c'est dans ce temps-là, ces années-là que nous, au Nouveau-Brunswick, on a la prohibition. Puis aux États-Unis, la prohibition, c'est jusqu'à les années 30. Là. Fait que ça va déborder les années 10 aux années 30. Puis après ça, un coup que c'est légalisé, l'alcool, ben, ça va. Toute la contrebande va diminuer. Là. Mais on fera un petit peu d'autre contrebande de tout ça, comme des cigarettes puis d'autres affaires comme ça. Ça, on doit en parler aussi. Mm-hmm. Ça, c'est pour le 1er avril, là, la conférence à Clarence Lebrun, okay. Breton. Oui. Sur l'industrie forestière, puis quand Caracat exportait le bois là, sur les grands navires. Puis un autre sujet que je peux présenter à matin en lien justement avec la forêt, c'est le véritable travailleur de la forêt qui est le castor.
Le castor, oui.
Oui, parce que le castor a été nommé 50 ans passés un des emblèmes officiels du Canada. Alors, c'était en 1975, et puis dans ces années-là, les années 60, 70, 80, le Canada se dotait de symboles nationaux qu'on n'avait pas officialisé depuis bien longtemps. Puis ça avait un peu commencé ça avant l'Expo 67 avec le drapeau. Là, on a adopté notre drapeau avec la feuille d'érable le rouge. Ça, c'était en 1965. Fait que ça aussi, ça fait comme un anniversaire. Et puis, donc à partir de là, on va commencer à adopter certains. Ça va prendre du temps quand même, mais on va adopter le castor officiellement comme emblème.
Savez-vous puis pourquoi on a choisi le castor? Philippe?
Ben, c'est la fondation par les Européens du Canada politique. Là. Que lorsqu'on va venir au Canada dans les années 1600, on va faire de la traite de fourrure, essentiellement. Fait que le castor est l'animal qu'on utilise pour faire la traite de fourrure. Parce que dans les années 1600, 1700, même jusqu'à les années 1800,
oui.
le castor, c'est ça qu'on utilise pour faire des chapeaux, par exemple. Fait que la mode en Europe, elle va changer. Et puis, quand ça change, on fait du feutre avec la peau de castor, là, la fourrure de castor. Le castor, il y a un sous-poil là, dans la fourrure. Là.
Mm-hmm.
Très chaud.
Quand tu le coupes, c'est doux. Puis c'est ça qui fait du feutre. Puis c'est avec ça qu'on faisait des chapeaux. Ah. Pendant longtemps, toutes les compagnies qui sont créées et sont pour faire la traite de fourrure. Fait, même dans nos régions ici, quand on arrive sur la côte, Nicolas Denis, là, c'est ça qu'il fait, lui, entre autres. Il fait de la pêche, mais il fait de l'établissement, mais il fait essentiellement la traite de fourrure comme bien d'autres partout ailleurs là, dans nos régions. Fait que lui, quand il s'installe sur l'île du Cap-Breton, il va avoir des installations-là. Il va en avoir à Miscou, puis il va en avoir à Bathurst, là, où il y a le Gowan Bray. Là. Fait que ces trois endroits-là, il y a des points de repère pour Denis, pour Nicolas Denis. mais il s'aperçoit vite fait que certains endroits sont mieux que d'autres. Comme il va abandonner Miscou, il pensait que c'était sur la pointe, c'était peut-être un lieu de commerce pour la traite des fourrures, mais il s'aperçoit que ça marche moins. Fait que là, c'est pour ça qu'il va peut-être aller à Bathurst. Puis, dans les années plus tard, ben, c'est là qu'on va développer tout le Saint-Laurent, puis qu'on va rentrer dans la terre plus loin au Canada, puis on va installer le réseau des Grands Lacs, puis un petit peu plus loin aussi, là, jusqu'en allant par la baie du Tisson. Fait que tout ça, c'est la traite de fourrure est faite par les Autochtones qui amènent la fourrure au comptoir. Puis là, tu as les gens des compagnies qui sont là, qui achètent, ils font des échanges, entre autres aussi.
Du troc.
Pour avoir la fourrure. Ouais, du troc pour faire la fourrure. Là. Comme si vous pensez à des noms comme Radisson ou Groseillers, là, comme à Montréal, je pense. La station métro Radisson.
Oui. Mm-hmm.
C'était des coureurs de bois, ça. Les coureurs de bois, on les appelait coureurs de bois, mais on les a aussi appelés les voyageurs. Fait que ça, c'était des surnoms de gens qui faisaient qui allaient d'un endroit à l'autre pour avoir le castor.
Moi, je pensais castor, qu'on avait choisi ça parce que le castor était travaillant. Ça n'a aucun rapport, là.
Ben aussi, oui? Aussi que c'est le castor, il y en a beaucoup au Canada. Puis dans les années 1800, il va devenir en voie de disparition. Hein, comme la baie d'Hudson, là, qu'on parle, là, c'est dans les médias qu'elle est en train de faire banqueroute. Là,
oui, oui.
La compagnie de la baie d'Hudson, là, elle a été fondée dans les années 1600. Par justement ces gars-là qui faisaient la traite de fourrure, mais elle a pu modifier sa façon de faire pour les magasins, puis là, elle a eu de la misère. Mais cette compagnie-là, c'était de la traite de fourrure au début, là. Puis ça a été transformé en magasin. Mais le castor, oui, pour sa prouesse, parce qu'il est au Canada, puis il était capable de construire sa propre maison lui-même, puis tout ça, puis les barrages, puis fait qu'il est devenu très symbolique comme un animal du Canada. Fait qu'en 1975, on a officiellement fait du castor un emblème du Canada, mais il était déjà sur le 5 sous, ça faisait déjà pas mal d'années, puis il était sur des armoiries ou des images au Québec, je pense l'hôtel de ville Québec ou des endroits comme ça. Il y avait déjà des places qui avaient adopté le castor.
Le castor, oui.
Et puis il y avait une crainte de, je pense que c'est l'État de New York qui voulait adopter le castor comme leur emblème, là. Fait que le Canada s'est dépêché à le prendre. Avant. Okay. Ben, il me semble que c'est l'État de New York là, qui voulait l'avoir. Parce que New York aussi, il y avait de la traite de fourrure de castor. Le castor existait là aussi. Là, ouais. Fait que ça, c'est ça. Depuis 50 ans.
Wow.
Il me semble que ça a été adopté le 24 ou le 25 mars là, en 1975. Là. Puis comme le Haut-Canada, qui est un autre, notre hymne national, je pense qu'il a juste été officialisé là, comme en 1980.
C'est quand même tard, hein? C'est tard. Ça fait longtemps, mais...
Oui, ben, la chanson existait, ça faisait une centaine d'années. Mais je pense comme juste le rendre officiel légalement ou par un décret, ça a pris du temps. Ça a pris comme une centaine d'années.
Je suis en train de fouiller le castor et sur le 5 sous depuis quand? Il me semble que vous avez mis... C'est-tu 1937 que vous avez mis hier comme photo?
Le 5 cents?
Oui, oui, oui.
Je ne sais pas depuis quand il est sur le 5 sous.
Je pense que c'est 1953, mais je suis en train de googler.
Ben là, il a mis un 5 cents de 2022. Là.
Ah, OK.
Non, ben non, ça traînait dans mes poches. Là, mais le 5 cents, ouais, je n'ai pas fait l'histoire du 5 cents, mais auparavant, mes grands-parents ou même mon père, des fois, ils disent en forme de 5 cents.
Oui, oui,
ça,
oui.
On ne peut plus dire ça depuis les années 60. Là, parce qu'avant, le 5 cents était comme un signe de arrêt, là, comme un signe de stop.
Octogonal?
Oui, c'était tout coché de main, là, tandis que depuis longtemps, il est bien rond. Puis le castor a été remplacé dans les années 40 par le V de la victoire. Parce que dans les années 40, c'était la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Puis là, on a enlevé pour deux ou trois ans. Puis là, on a placé le V. Puis après ça, le castor a repris sa place sur le Saint-Saëns.
On dit même que le castor a été le symbole, l'emblème de la Société Saint-Jean-Baptiste, Association patriotique canadienne-française, entre autres. Alors, il y a plusieurs organisations, on voulait s'approprier le castor comme emblème, hein?
Oui, bien, ça, cette association-là, c'est une association qui était très pro-Québec, là, canadien-français.
Oui.
C'est eux qui vont inviter les Acadiens, entre autres, dans les années 1880, à se rejoindre à eux durant une cérémonie ou un congrès. Mm-hmm. Puis c'est de là qu'ils vont s'inspirer les Acadiens à faire leur propre congrès en 1881, d'où on va faire choisir la fête nationale qui est le 15 août.
Oui.
Et c'est, c'est un organisme qui existait depuis longtemps.
Et c'est le 24 mars 1975 qu'on a proclamé le castor, le symbole officiel de la souveraineté du Canada.
Bon, puis le castor était sur le Saint-Sou depuis 1937. Alors.
1937?
Wow. 1937,
ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Oui. Ah, toujours très intéressant vos sujets, Philippe. Ça nous fait fouiller aussi, là. On veut en savoir.
Non, c'est ça. Ça évoque, on devient plus curieux.
Oui, oui.
Oui, absolument.
Merci,
Philippe.
OK, à la prochaine.
Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs du village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée! L'équipe.